Grains de sable, fable de La Fontaine. Le loup plaidant contre le renard par devant le singe. Un loup disait que l'on l'avait volé. Un renard, son voisin, d'assez mauvaise vie, pour ce prétendu vol par lui fut appelé. Devant le singe, il fut plaidé, non point par avocat, mais par chaque partie. Thémis n'avait point travaillé de mémoire de singe, a fait plus embrouiller. Le magistrat suait en son lit de justice. Après qu'on eut bien contesté, répliqué, crié, tempêté, le juge, instruit de leur malice, leur dit « Je vous connais de longtemps, mes amis, et tous deux vous paierez l'amende. Car toi, loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait rien pris, et toi, renard, as pris ce que l'on te demande. » Le juge prétendait qu'à tort et à travers, on ne saurait manquer condamnant un pervers. Les deux taureaux et une grenouille. Deux taureaux combattaient à qui posséderait une génisse avec l'Empire. Une grenouille en soupirait. « Qu'avez-vous ? » se mit à lui dire quelqu'un du peuple croissant. « Et ne voyez-vous pas, dit-elle, que la fin de cette querelle sera l'exil de l'un, que l'autre, le chassant, le fera renoncer aux campagnes fleuries ? Il ne régnera plus sur l'herbe des prairies, viendra dans nos marais régner sur les roseaux, et nous foulant aux pieds jusqu'au fond des eaux. Tantôt l'une, et puis l'autre, il faudra qu'on pâtisse du combat qu'a causé Madame la génisse. » Cette crainte était de bon sens. L'un des taureaux en leur demeure s'alla cacher à leurs dépens. Il en écrasait 20 par heure. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. La chauve-souris et les deux belettes. Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes, et sitôt qu'elle y fut, l'autre, envers les souris de longtemps courroucées, pour la dévorer accourue. Quoi, vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire, après que votre race a tâché de me nuire ? N'êtes-vous pas souris ? Parlez sans fiction. Oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau, voyez mes ailes. Vive la jante qui fend les airs. Sa raison plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. Deux jours après, notre étourdi aveuglément se vint fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis. La voilà Déruchef en danger de sa vie. La dame du logis avec son long museau s'en allait la croquer en qualité d'oiseau. Quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. « Moi, pour tel passé, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau ? C'est le plumage. » Je suis souris, vive les rats, Jupiter confonde les chats. Par cette adroite repartie, elle sauva deux fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpes changeantes au danger, ainsi qu'elles, ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens, vive le roi, vive la ligue. L'oiseau blessé d'une flèche. Mortellement atteint d'une flèche empennée, un oiseau déplorait sa triste destinée et disait, en souffrant un surcroît de douleur, faut-il contribuer à son propre malheur ? Cruels humains, vous tirez de nos ailes de quoi faire voler ces machines mortelles. Mais ne vous moquez point, en gens se sans pitié. Souvent il vous arrive un sort comme le nôtre. Des enfants de Jappé, toujours une moitié, fournira des armes à l'autre. La lice et sa compagne. Une lice était sur son terme, et ne sachant où mettre un fardeau si pressant, fait si bien qu'à la fin, sa compagne consent de lui prêter sa hutte, où la lice s'enferme. Au bout de quelque temps, sa compagne revient. La lice lui demande encore une quinzaine. Ses petits ne marchaient, disait-elle, qu'à peine. Pour faire court, elle l'obtient. Ce second terme échu, l'autre lui redemande sa maison, sa chambre, son lit. La lice, cette fois, montre les dents et dit « Je suis prête à sortir avec toute ma bande, si vous pouvez nous mettre hors ». Ses enfants étaient déjà forts. Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête, il faut que l'on en vienne au coup. Il faut plaider, il faut combattre. Laissez-leur prendre un pied chez vous, ils en auront bientôt pris quatre. L'aigle et l'escargot. L'aigle donnait la chasse à Maître Jean Lapin, qui, droit à son terrier, s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin. Je laisse à penser si ce gîte était sûr, mais ou mieux. Jean Lapin s'y blottit. L'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile, l'escarbot intercède et dit « Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux. Mais ne me faites pas cet affront, je vous prie. Et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui de grâce, ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère. » L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escarbot, l'étourdit, l'oblige à se taire. Enlève Jean Lapin. L'escarbot, indigné, vole au nid de l'oiseau, fracasse en son absence ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance. Pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris, et pour comble de rage, ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle gémit en vain, sa plainte au vent se perd. Il fallut pour 7 ans vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut. L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut. La mort de Jean Lapin de Rechef est vengée. Ce second deuil fut tel que l'écho de ses bois n'endormit de plus de 6 mois. L'oiseau qui porte Ganymède du monarque des dieux, enfin il implore l'aide. Dépose en son giron ses œufs et croit qu'en paix ils seront dans ces lieux. Que pour ses intérêts, Jupiter se verra contraint de les défendre. Hardi qu'il désirait la prendre, aussi ne les étiperait-on pas. Leur ennemi changea de note. Sur la robe du dieu fit tomber une crotte. Le dieu, la secouant, jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, avec maintes autres extravagances. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal, l'escarbot comparut, fit sa plainte et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait tort. Mais les deux ennemis ne voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa pour bien faire de transporter le temps où l'aigle fait l'amour en une autre saison, quand la race escarbote est en quartier d'hiver et, comme la marmotte, se cache et ne voit point le jour. Le lion et le moucheron. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la guerre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonna la charge. Fut le trompette et le héros. Dans l'abord il se met au large, puis prend son temps, fonce sur le cou du lion, qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume, et son œil étincelle, il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle, tantôt pique l'échine et tantôt le museau, tantôt rentre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son faîte monté. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est ni griffe ni dent en la bête irritée qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue, là-bas. Le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire, comme il sonne à la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer, et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois 2, dont l'une est qu'entre nos ennemis les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. L'âne chargé d'éponge et l'âne chargé de sel. Un ânier, son sceptre à la main, menait en empereur romain 2 coursiers à longues oreilles. L'un d'éponge chargé marchait comme un courrier, et l'autre se faisant prier portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par mont, par veau et par chemin, au gué d'une rivière à la fin arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier, qui tous les jours traversait ce gué-là, sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête, qui voulait en faire à sa tête. Dans un trou se précipita, revint sur l'eau, puis échappa, car au bout de quelques nagées, Tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagées. Camarade épongier prit exemple sur lui, comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. Voilà mon âne à l'eau, jusqu'au col il se plonge. Lui, le conducteur et l'éponge. Tous trois burent d'autant. L'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante et de tant d'eau s'emplit d'abord que l'âne succombant ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours. Qui ce fut, il n'importe. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point.